Bien, alors on dit bonjour aux auditeurs, on les salue, merci d'être à ce nouveau rendez-vous des carnets hebdomadaires de Comaguerre sur la situation internationale, en présence de Roselyne, qui est à la technique, que je salue, en présence de Habib, que je salue, bonjour Habib, et en présence d'une de mes petites filles, que je salue, voilà, qui est là pour voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe ici et là. Bien, quelle semaine, car quand nous commencions notre édition la semaine dernière, nous ne savions, ne pouvions pas imaginer l'ampleur des mouvements internationaux et des transformations qui étaient en cours dans les 8 jours qui allaient suivre. Alors commençons par l'événement qui était plus typiquement marseillais et qui a beaucoup intéressé la presse nationale et locale, mais pas beaucoup la presse étrangère, c'est-à-dire que Marseille a reçu le président de la République, mais on sait que Macron aime beaucoup Marseille pour des raisons qu'on ignore, et il a reçu le Premier ministre indien, Narendra Modi. Donc ça a donné lieu à quelques petites cérémonies. Une que je signale que c'est peu connu, c'est qu'ils se sont rendus, au moins Narendra Modi s'est rendu dans un cimetière qu'on appelle à Marseille le cimetière du Commonwealth, qui est quelque part vers Mazargues, après l'obélisque, où sont enterrés des Indiens, beaucoup, beaucoup d'Indiens, qui ont combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Quelques Chinois en plus, mais surtout des Indiens. Et il faut savoir, ça fait partie de l'histoire marseillaise ancienne, que sur le terrain qui est aujourd'hui l'hippodrome du parc Borély, il y avait un camp indien avec des milliers d'Indiens qui faisaient la cuisinade indienne et qui soit allaient travailler dans des usines en France parce que les ouvriers français étaient au front, soit rendaient des services à l'armée ou allaient faire des tranchées ici et là et tout. Bon. Donc il y a des milliers d'Indiens qui sont enterrés dans un cimetière à Marseille qui est très très bien entretenu. Ça s'appelle le cimetière du Commonwealth. Il y a un gazon à l'anglaise magnifique et il y a des tombes donc de gens qui sont venus combattre pour la France mais qui n'étaient pas français. C'était des colonisés de l'époque. Je rappelle que l'Inde n'a été décolonisée qu'en 1947. La deuxième raison de la visite de M. Modi est beaucoup plus politique. Il s'agissait de mettre en lumière la possibilité qu'il y ait des trafics de marchandises, trafic dans le bon sens du terme, j'entends, donc des transports de marchandises entre l'Inde et l'Europe en utilisant un trajet particulier. Et ce trajet particulier est effectivement tout à fait spécial puisqu'il s'agit, et il s'agit toujours d'un projet, d'une idée qui a été lancée par M. Modi lui-même il y a 2 ans à l'occasion d'un sommet du G20. Il s'agit donc d'envoyer de la marchandise en utilisant un parcours, donc traverser la mer d'Arabie, en bateau, débarquer quelque part dans les Émirats Arabes Unis, traverser l'Arabie Saoudite dans sa totalité sur un chemin de fer à construire, je précise, donc il s'agit bien d'une idée en l'air, ensuite passer de l'Arabie Saoudite à la Jordanie, et de la Jordanie continuer en direction d'un port sur la Méditerranée qui est le port d'Haïfa. Ça veut dire que ça consiste à, d'une certaine façon, court-circuiter le canal de Suez, à utiliser le territoire de l'Arabie Saoudite et surtout à mettre en vedette un port israélien. C'est-à-dire, c'est un espèce de coup de chapeau que l'Inde, à travers ce projet, donne au régime de Benjamin Netanyahou, en donnant le point d'entrée sur la Méditerranée à Israël. Ça, c'est un cadeau que l'Inde voulait faire à M. Netanyahou. Alors, pourquoi le cadeau de M. Modi à M. Netanyahou? Alors, il y a une raison très très simple et qui paraît même très très simpliste pour des chefs d'État et de gouvernement, c'est que M. Modi, comme M. Netanyahou, n'aime pas les Arabes. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, il faut savoir que M. Modi est hindouiste. Il est à la tête d'un parti hindouiste, c'est-à-dire un parti qui proclame la supériorité des pratiquants de cette religion-là sur une autre religion. Et en particulier sur l'islam. Pourquoi? Parce que sur les 1,4 milliard d'Indiens, il y a 150 ou 200 millions de musulmans. Donc ceux qui sont majoritaires, qui suivent plus ou moins les hindouistes, ils disent qu'ils n'aiment pas les musulmans, qu'ils sont une minorité, mais une minorité dont on ne peut pas se séparer.
Donc, il a commis un massacre aussi.
Oui, alors, en plus, ouais. Voilà. Alors, et avant qu'il soit Premier ministre, M. Narendra Modi avait été gouverneur de Gujarat, qui est une des provinces de la République indienne. Gouverneur, c'est un gouverneur élu. Hein. C'est un poste important. Il était, comme on dirait aujourd'hui, président de région, bon, en utilisant le vocabulaire français. Et Il a occasionné, alors à la suite d'un accident de chemin de fer dont les responsabilités n'ont pas été bien établies, qui transportait des pèlerins hindouistes sur un site hindouiste, il y a eu un pogrom, ce qu'on appelle un pogrom donc dans l'histoire de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'il y a des militants hindouistes qui sont allés dans les quartiers musulmans, il y avait des quartiers musulmans, et qui ont mis le feu et qui ont massacré 1000 personnes dans la journée.
C'est ça.
Voilà, ça c'est un pogrom, et ça monsieur Modi, qui était gouverneur du Gujarat à l'époque, a laissé faire. Bon. Alors, cette affaire-là a beaucoup agité l'Inde pendant toute une période. Il y a eu des tribunaux. Alors, en première instance, on donnait tort à Modi. En deuxième instance, il était exonéré de ses responsabilités. Enfin, ça a échoué. Ça n'a rien donné. Mais ça reste comme un très mauvais souvenir et comme une tache sur le parcours politique de M. Modi. Et donc cette espèce d'affinité anti-arabe entre Netanyahou, entre Israël et l'Inde, se retrouvait mise à l'ordre du jour dans ce projet économique de faire passer les marchandises d'Inde par un port de l'État d'Israël. Bon. Alors pourquoi ça se passait à Marseille, cette mise en valeur de ce projet? Parce que M. Macron, toujours à l'affût d'une bonne affaire, se dit « mais je vais dire que les bateaux qui vont partir à Daïfa et qui sont provenant en provenance, ils vont passer par mon port à moi ». Il était tout content, applaudissons la bonne affaire de la République française, tout ça va passer par chez moi. Alors, c'est rien moins qu'acquis, puisque je peux vous dire que M. Modi, dès qu'il a pris l'avion le lendemain pour aller aux États-Unis rencontrer le président Trump, a parlé avec lui aussi de ce projet donc de transport de marchandises depuis l'Inde jusqu'à la Méditerranée, et il a dit dans son discours que les marchandises arriveraient en Italie. Ah bon, ben tant pis Emmanuel. Alors Emmanuel doit pleurer, disant, ben les bateaux n'arriveront pas à Marseille, parce que le Premier ministre indien, il a même plus parlé de Marseille quand il était avec Trump. Il a parlé d'un port italien qui serait probablement ou Venise ou Trieste, au fond de l'Adriatique. Bon, vous voyez comme quoi la lumière d'un jour pâlit le lendemain, c'est des choses qui arrivent. Bon. Donc voilà, alors je ne vais pas plus loin là-dedans parce que cette visite qui a beaucoup fait parler, puisque c'était quand même une première, une visite d'un premier ministre indien qui à cette occasion a ouvert un consulat de l'Inde à Marseille, qui est le premier consulat d'Inde en dehors des services consulaires de l'ambassade à Paris, mais tout ça est passé très très vite dans la poussière de l'histoire, puisque le lendemain, les affaires plus sérieuses commençaient pour M. Modi à Washington avec Donald Trump, et que là effectivement on a eu une espèce d'espèce de valse à deux temps assez étrange, c'est-à-dire que tout le monde voulait faire croire que M. Modi venait s'agenouiller devant le Donald, comme on dit là-bas, et en fait quand on lit ce qu'ils ont dit, c'est pas du tout ça. Il dit, mais au fond tout le long du discours, il dit, mais je suis un grand garçon, finalement je fais ce que je décide de faire. Hein, c'est pas toi qui... Enfin, il le dit pas comme ça, parce qu'on reste entre gens polis et tout, mais il dit, au fond, je suis un grand garçon, d'abord, on est 1,4 milliard, vous êtes que 300 et quelques millions, c'est pas beaucoup, et puis j'ai même pas peur. C'est, en gros, c'est ça le contenu de son discours, donc consistant à dire, ben, l'Inde continuera à faire ce qu'elle a à faire, et y compris, alors, on peut s'en affliger si on veut, c'est-à-dire, l'Inde ne veut être dans le camp de personne, hein, ce qui ne met pas en cause son adhésion aux BRICS, puisque les BRICS n'engagent pas une politique étrangère commune jusqu'à nouvel ordre, et donc l'Inde n'est alignée avec personne. De temps en temps, elle est obligée de travailler avec la Chine, qui est son voisin, et qui est, j'insiste là-dessus parce qu'on a eu tendance à partir du moment où ça se passe l'année dernière, on a dit dans la presse française, vous savez, l'Inde, il y a plus d'habitants qu'en Chine. Bon, alors ça c'est vrai, mais c'est à quelques centaines de milliers près, on est à 1,4 milliard, et puis quelques broutilles en plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, on a fait croire à l'opinion française, moi j'étais assez étonné de ce qui se disait dans la presse française, que du fait qu'il y avait quelques habitants en plus en Inde qu'en Chine, l'économie indienne était au même niveau d'avancée que l'économie chinoise. C'est la plus grande des contre-vérités possibles. L'économie indienne est très très loin derrière l'économie chinoise, à tout niveau. Au niveau de son organisation, au niveau de son niveau technologique, etc. Bon, alors, ils sont dans la bonne direction, ils font des efforts, ils travaillent, etc. Il y a des gens formés, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est une société qui, et ça renvoie un peu à l'hindouisme, c'est-à-dire que c'est une société qui, avec son système des castes, qu'elle a aboli, en fait, est une société difficile à mettre dans une vraie démocratie, car quand on dit qu'il y a des gens qui sont d'une caste d'insoumis ou d'inférieurs, qui n'ont pas accès à tel et tel métier, à telle et telle étude, à tel et tel logement et tout, on n'est pas en face d'une démocratie en train de se faire. Alors, je sais que le système des castes a été aboli dans la loi. Mais ça ne suffit pas de l'abolir par la loi, puisque aujourd'hui encore, si vous êtes né dans une caste d'insoumis, vous n'aurez pas accès à certaines professions, on ne vous acceptera pas dans certaines écoles, etc. Ce qui explique d'ailleurs, et ça a une relation avec les questions religieuses, qu'il y a pas mal de gens des castes inférieures qui ont décidé de se convertir à l'islam en disant « mais si je deviens musulman, je suis un musulman parmi d'autres, je ne suis plus d'une caste inférieure ». Et donc c'est aussi un curieux rapport entre l'hindouisme et l'islam qui fait qu'un certain nombre d'insoumis, enfin des castes inférieures indiennes, ont dit, ils n'étaient pas spécialement pro-musulmans ou pro-islam, mais ils se sont dit « là au moins je suis un comme les autres ». Je suis à égalité avec tous les autres musulmans. Je dis, ils sont quand même 150 millions sur le territoire de l'Inde. C'est pas mal. Voilà pour Monsieur Modi. Et donc, il a maintenu ses distances. Il fera rien pour fâcher le Donald, mais il lui a répondu, il lui a fait savoir qu'il avait sa politique à lui et qu'à l'occasion, il lui a même dit, à l'occasion, si on doit discuter de choses importantes avec la Chine, on le fait. Mais ça nous regarde. Hein, vous savez qu'il y a des contentieux frontaliers, etc. Bon, ça, c'était la fin de la semaine. Enfin, on était jeudi et vendredi. Et puis, à la suite des événements, vendredi s'ouvre à Munich la conférence annuelle sur la sécurité en Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette conférence? C'était la 61e du genre, si ma mémoire ne me trompe pas. Et c'est un endroit, on a souvent appelé le Davos des affaires internationales ou le Davos de la défense. Alors, Davos, ça se tient toujours mi-janvier à Davos, d'où son nom. Et ça parle surtout des perspectives économiques internationales. Alors que, à Munich, on parle surtout de la sécurité collective en Europe, puisque ça se passe en Europe. Et donc ça se tient tous les ans, et là on attendait effectivement des nouvelles, puisque ce qui se passe pas très loin de Munich, c'est la guerre en Ukraine, et on attendait des évolutions ou des prises de position sur cette guerre en Ukraine. Alors là, on a été un peu surpris par un personnage qui vient d'apparaître sous les projecteurs de l'histoire, qui est le nouveau vice-président états-unien. Alors je m'arrête un petit peu sur le personnage, parce que je pense que ce n'est pas demain la veille qu'on n'en parlera plus. Alors non pas que je lui porte un intérêt particulier, ni même que je lui voue une admiration particulière, mais celui qu'on appelle J.D. Vance, John Donald Vance, est le nouveau vice-président des États-Unis. Donc il a été choisi par Trump pour être son vice-président. Et je précise, parce que ça donne un éclairage sur des perspectives sur la politique des États-Unis, c'est-à-dire que Monsieur Donald Trump a 79 ans, mais Monsieur Vance a 40 ans tout rond. Et il y a beaucoup, beaucoup d'observateurs des États-Unis qui, voyant que ce personnage qui a les dents très très longues, qui a d'abord été pro-démocrate, qui est passé un peu partout, il a été évangéliste, il vient de se convertir au catholicisme, il a ceci de qui va aller avec Trump, il aime pas les musulmans non plus, ça paraît tout à fait clair, hein, mais ce monsieur, beaucoup de gens aujourd'hui écrivent aux États-Unis, des journalistes disent peut-être bien. Et on n'exclut pas du tout cette hypothèse que dans un an ou deux, M. Donald Trump, fatigué, laissera la place à ce jeune homme. 40 ans. Hein. Et donc, il y a des choses qui peuvent se passer. Alors, il faut savoir que le personnage est extrêmement ambitieux, habile. Il navigue un peu partout. Il a été formé par un milliardaire dont le nom est moins connu que les grands, mais qui s'appelle Monsieur Thiel, T-H-I-E-L. Donc il a été dans un fonds de placement. Enfin, il connaît tous les mécanismes de la banque, de la finance, des placements internationaux et tout. Donc il est tout à fait adapté à une gouvernance aux États-Unis. Et ce monsieur a de l'ambition, beaucoup d'ambition. Bon. Et donc, ce qu'est-il ? Alors, on l'attendait à Munich, c'était sa première apparition publique dans une grande conférence internationale en tant que vice-président, et il représentait le président lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit à Munich ? Il a dit « Vous préoccupez pas de la Chine et de la Russie, hein ? » Il est venu dire aux Européens, alors vous allez voir le sel de la chose, « Vous êtes pas très démocrate. »
Oui, c'est vrai.
Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là ?
Il a répété ça quatre fois, je crois.
Oui, ah oui, il a vraiment essayé d'enfoncer le clou. Hein. Vous n'êtes pas démocrate. Alors, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que, à la suite de la visite de M. Elon Musk en Allemagne, où il est allé rencontrer et où il a souligné l'intérêt de la politique du parti d'extrême droite AfD, M. Vance est venu dire aux pays d'Europe, vous avez tort de ne pas laisser le pouvoir à l'extrême droite en Europe. Alors il leur a dit, c'était joliment enveloppé, mais enfin il l'a dit comme ça, c'est de ça, c'est ça votre problème. Il y a des gens chez vous qui votent à l'extrême droite, ils sont même pas au pouvoir. Ben moi, mon avis, c'est qu'il faut qu'ils soient au pouvoir. C'est ça la démocratie telle que je la vois. Bon. Ah, alors ça a dû poser certaines gênes chez les auditeurs européens, parce qu'on dit, si les présidents des États-Unis ou vice-présidents font campagne pour l'extrême droite en Europe, nous on va avoir des soucis. Et alors, je rappelle que ça se passait donc vendredi et samedi dernier, et que dans 3 jours, ouais, il y a des élections en Allemagne.
C'est ça.
Bon. Et il faut savoir effectivement que les Allemands qui étaient là, qui assistaient à cette conférence, dont le Premier ministre Olaf Scholz, ont dû avoir beaucoup de peine à supporter ce genre de discours. Parce qu'effectivement, c'est ou eux ou l'extrême droite allemande qui arrivera au pouvoir lundi prochain. Et donc ils ont dû prendre ça comme une paire de claques que M. Vance était venu leur administrer en disant « Vous savez pas y faire, hein, nous on sait y faire ». Voilà, ça c'était un premier grand moment du week-end qui a débouché sur d'autres choses. Le deuxième grand moment de ce week-end-là, je reste sur cette conférence sur la sécurité collective en Europe, c'était le discours du ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Alors là, une tonalité totalement différente. Pas de leçon à donner à l'auditoire. Alors l'auditoire, je rappelle, c'est des dirigeants européens, des dirigeants internationaux, avec des invités, il y a un représentant de l'Union africaine, il y a Guterres, le secrétaire général de l'ONU, enfin rien que du beau monde, on dirait. Et qu'est-ce qu'il est venu dire, M. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine ? Il est venu dire, ben voilà comment nous, on voit les choses sur la politique internationale en général. Et il a expliqué que, voilà, avec tout le respect qu'il devait à tous ses auditeurs de très haut rang, dit voilà quelques principes qui guident notre action et qui devraient guider notre action à nous tous. Le premier principe, il faut respecter l'égalité. Alors il parle d'État entre États. L'égalité entre États, ça veut dire qu'un État soit petit, y compris comme l'État du Vatican, c'est vraiment trop petit, mais comme la Lituanie ou le Monténégro, ou grand, il doit, dans les rapports entre pays, il s'agit de rapports entre pays, on est dans une conférence inter-entre nations, on respecte le petit autant que le grand. Puisqu'on a affaire à un État qui a des électeurs, des citoyens, et tout. Première donnée. Deuxièmement, respecter l'état du droit. Alors c'est là que ça commence, c'est très dit, très, très poliment, mais c'est très très méchant pour ceux qui ne respectent le droit. Dans le droit international, il y a des traités, il y a des accords, et on doit les respecter parce qu'on les a signés. Et là, alors, il met le doigt sur une plaie très très vive aux États-Unis, et en particulier sur Donald Trump, qui, dans son premier mandat, a passé une partie de son temps à dénoncer ou à retirer sa signature dans des accords internationaux que les États-Unis avaient signés avant lui. Alors, je vais prendre un exemple, par exemple, il y a le cas d'un accord avec l'Iran, puisque l'Iran avait été sanctionné parce qu'il menaçait d'avoir l'arme atomique, qui n'ont pas au jour où je vous parle, et l'Iran avait dit mais non, et le guide de la révolution iranienne avait dit mais non, ça ne fait pas partie de nos principes, on ne veut pas la bombe atomique parce que ça tue des gens et on ne veut pas tuer des gens. Bon, et donc l'Iran avait été sanctionné, et il y avait un accord qui avait été signé entre les États-Unis, la France et l'Allemagne en particulier, la Grande-Bretagne, cautionné par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui disait qu'effectivement, puisque l'Iran disait qu'il ne voulait pas fabriquer la bombe atomique alors qu'il a de l'uranium, etc., ouais, il n'y avait pas de raison de le sanctionner. Donc il y avait eu levée de sanctions pour ça. Bon. Ce qu'a fait Trump quand il est arrivé donc, dans ce premier mandat, c'est qu'il a dit cet accord-là, ça ne m'intéresse pas. Hein. Donc je continue à sanctionner l'Iran et je vais la re-sanctionner aussi longtemps que possible. Et quand il faisait ça, il ne faisait jamais que faire ce que lui demandait de faire Benjamin Netanyahou. L'Iran, c'est le diable et donc il faut dire du mal du diable, etc. Classique. Bon. Donc M. Trump est pris à défaut par ce genre de propos puisqu'il a déjà dénoncé. Alors les derniers accords qui restaient avec l'URSS et la Russie concernant l'armement nucléaire, il les a dénoncés aussi. Et donc, en fait, le premier mandat de M. Trump, c'est intéressant, quand il commence son deuxième, ça a consisté à pratiquement dénoncer tous les accords internationaux que les États-Unis avaient signés avant lui et qui restaient encore en vigueur. Alors, quand le ministre des Affaires étrangères chinois dit « il faut respecter sa signature », quand on signe un accord après, on respecte ce qu'on a signé, il dit, façon de dire gentiment à M. Trump et à M. Vance qui est là dans la salle au premier rang à l'écouter bien sagement, c'est très très sérieux ce que je dis. On respecte, quand on signe quelque chose, c'est pour le respecter. On signe pas pour faire du cinéma ou pour passer à la télévision. On signe pour respecter. On engage du monde et on engage la morale publique. Ça, c'est le deuxième point. Vous voyez que c'est pas tout à fait rien ce que M. Wang Yi vient dire aux oreilles de ce beau monde. Le troisième principe, il est important de poursuivre le multilatéralisme. Alors qu'est-ce que c'est que le multilatéralisme ? C'est le fait que sur la planète, il y a aujourd'hui, alors il le rappelle d'ailleurs, il y a des... Au moment où la Charte des Nations Unies a été adoptée, donc on est en 1945, on crée la première Assemblée Générale de l'ONU, il y a 54 États autour de la table. Aujourd'hui, il y en a 193. Donc c'est multiplié par plus de 3. Bon, quand on est 193 autour de la table, on se respecte les uns les autres et on s'attend pas à ce que tout le monde soit d'accord avec tout le monde. Simplement, on vit ensemble, on n'a qu'une planète, on vit ensemble sur la planète et on essaye de trouver des moyens de vivre sans s'entretuer entre 193. Avec, sous-entendu, ce qu'il vient de dire avant, les petits valent les gros. Hein, tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est ça, il dit, le multiralisme, c'est pas... Alors, ça a été présenté, bien entendu, du côté occidental et du côté des États-Unis, comme dire, le multiralisme, ça consiste à dire du mal des États-Unis. Pas du tout. Vous êtes un État puissant, respectable par toute une série d'aspects, mais vous n'êtes pas seul sur la planète. Il y a du monde. Hein, puis, on peut tous vivre, on peut tous avoir accès à des ressources naturelles et tout. Tout n'est pas à vous. Quand il disait ça, alors tout n'est pas à vous. Ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose par rapport aux propos de Monsieur Trump sur Gaza et sur l'Ukraine. Hein, puisque sur Gaza, c'est effectivement, oui, il y a des Palestiniens là à Gaza. Oui, mais les pauvres, ils sont tellement malheureux, ils ont tellement plus de maisons, plus d'hôpitaux et tout, que je vais leur dire, écoutez, partez de là, je vais tout reconstruire et on va vous faire la Côte d'Azur sur la Palestine, ça va être encore mieux. Mais ça sera peut-être pas pour vous parce que les logements seront chers. Bon, mais vous verrez bien. C'était ça le jeu. Bon, ça c'était pour la Palestine. Et pour l'Ukraine, ça consistait à dire, alors c'était intéressant parce que c'était une espèce de reconnaissance du fait que la guerre actuelle, elle est perdue par les Ukrainiens, les Ukrainiens et tous ceux qui ont combattu pour les Ukrainiens.
L'OTAN.
Mais que, il dit, alors, oui, dans les États-Unis. Mais c'était de dire, écoutez, je vais me payer parce que ça m'a quand même coûté assez cher. Alors, c'est là qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire, quand on met un milliardaire à la tête d'un État, on s'attend pas à ce que du jour au lendemain il se transforme dans sa tête, que ses neurones se mutent en quelque chose d'autre. Un milliardaire qui arrive au pouvoir, il se comporte comme s'il était à la tête d'une entreprise. Est-ce que ça gagne bien? Et là, il dit, alors, il le dit tel que, mais on a beaucoup dépensé en Ukraine pour arrêter la Russie et on n'a pas réussi. Mais ça nous a coûté très très cher. Et effectivement, on est pas très loin du milliard de dollars.
Ouais.
Bon, et il dit là-dessus, moi j'ai claqué, alors je vais parler vulgairement comme là, j'ai claqué un milliard de dollars et j'ai encaissé rien du tout, des cacahuètes, ça ne va pas du tout, je veux encaisser quelque chose. Et là il dit, écoutez, c'est simple, j'ai vu qu'il y avait sur le territoire de l'Ukraine des minerais très très rares et dont on a besoin pour l'industrie à l'heure actuelle, je prends une option sur les minerais ukrainiens. Donc je me paye du milliard que j'ai dépensé, au moins j'ai quelque chose sous la main. La vie des Ukrainiens, la vie des Russes, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais moi au moins je rentre dans mes frais. Parce que j'ai fait beaucoup, ça m'a coûté très cher cette histoire d'Ukraine. Bon. Alors il l'a dit, alors ce qu'il a oublié de dire, et ce que les observateurs sur place et tout le monde sait, c'est que la plupart des gisements auxquels il pense, donc des terres rares, du lithium, enfin les minerais à la mode qui servent à l'alimentation des téléphones portables, ordinateurs et tout, sont sur un territoire qui est déjà occupé par l'armée russe. Bon, donc ça sera peut-être un petit peu difficile d'aller utiliser ces minerais-là, mais façon de le dire. Et d'ailleurs, je pense que dans ces cas-là, Trump, vu la façon dont il s'exprime et dont il gouverne, il va même pas vérifier. Il dit, ça c'est une bonne idée, et puis je vais dire que je veux récupérer les minerais ukrainiens, et si ses conseillers lui disent, ah oui, mais ils sont pas chez nous, Ça, il l'a dit, c'est une autre façon de, enfin, non, c'est pas une façon de gouverner. C'est une façon de gouverner si par la parole, c'est-à-dire même si après, dans ses actes concrets, il va bien se rendre compte que ce n'est pas applicable et qu'en pratique, ça n'a aucun sens, il aura dit. C'est-à-dire, il y a l'effet d'une espèce de torrent de parole. Il veut, d'une certaine façon, anesthésier l'opinion publique américaine, anesthésier l'opinion publique mondiale, à force de discours qui, quand on les regarde l'un derrière l'autre, sont creux dans la plupart des cas. Mais le monde entier dit « Mon Dieu, Trump a dit ça !» Et puis après, vous dites « Ben oui, mais il a dit une bêtise, ça va, on n'en parle plus, on passe à autre chose. » Mais sur les faits, sur le moment, il y a un effet de sidération de cette espèce d'afflux d'organes. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que à ce rythme-là, Monsieur Vance est tranquille, c'est-à-dire que Donald, il va pas tenir 2 ans comme ça. Il va se couvrir de ridicule, se fatiguer, ou sa femme lui dira, Mélania lui dira, arrête Donald, on part en Floride, ça suffit, hein, parce que c'est pas possible. Alors, il fait ça, à mon avis, c'est la période, il s'est donné, vous savez, il s'est donné 60 jours pour faire toute une série de mises au point, il en est déjà à 30, et on voit déjà le résultat, et au bout de 60 jours, qu'est-ce qu'il aura encore à dire? Ou quelle provocation il aura encore à articuler? Je vois pas trop, mais il va sans doute y arriver, à livrer à lui-même. Donc ça, c'est intéressant aussi pour situer le personnel du Donald Trump en question. Et puis le mettre en relation avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui même à Riyad. Ouais. C'est là qu'on arrive dans les affaires sérieuses. Parce qu'effectivement, il a été confirmé des deux côtés que M. Trump avait téléphoné à M. Poutine. Et donc là, on n'a pas parlé de grands mots, ils se sont parlé. C'est-à-dire que le Trump qui fait des vagues en disant des énormités, ça fait parler à la une les journaux, les télévisés. Mais ceux qui savent un peu les affaires sérieuses disent, bon, Trump, il est aussi capable de parler. Alors, j'avais évoqué ça la semaine dernière en parlant du dialogue téléphonique qu'il a eu avec la présidente mexicaine, c'était du même tonneau. C'est-à-dire, je fais des grands bruits à la télévision pour dire, plus aucun Mexicain aux États-Unis, tous dehors, etc. Mais en même temps, quand j'ai Madame Sheinbaum au téléphone, je discute avec elle. Et puis on a prévu de se revoir une fois qu'on aurait regardé nos problèmes communs dans un mois. C'est-à-dire que quand il est tranquillement et en dehors des caméras de télévision, il est capable de parler. Parce que, alors, ce monsieur, c'est pas Einstein, mais il sait compter. C'est ça que ça veut dire. Il sait compter et quand on lui dit là tu mets beaucoup d'argent tu vas rien gagner, là je pense qu'il s'est réfléchi autrement. À l'inverse, celui là tu mets pas beaucoup tu gagnes beaucoup, ça il sait faire, c'est son métier. Voilà pour ce qui est des évolutions de Monsieur Trump. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Riyad? C'est là que ça devient intéressant. Aujourd'hui à Riyad se rencontre très officiellement, puis ça a été confirmé, le secrétaire d'État des États-Unis, M. Marco Rubio, et le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergei Lavrov, chacun d'entre eux assisté, d'une part côté états-unien, du fameux banquier Witkoff dont j'ai parlé, qui a été l'organisateur du cessez-le-feu à Gaza. Donc, personnage extrêmement important dans la délégation des États-Unis, encore un milliardaire. C'est-à-dire, les affaires des États-Unis sont aujourd'hui totalement gérées par des milliardaires. Donc, ils ne pensent qu'à l'argent. Quand ils voient qu'ils peuvent gagner, ils sont méchants et ils croquent tout ce qui est possible. Quand ils voient que c'est un peu plus difficile, ils vont essayer de trouver d'autres moyens, peut-être en gagnant un peu moins, mais pour rester dans la course, pour ne pas disparaître. C'est comme ça que Trump a fait dans toute sa carrière hôtelière. Trump a passé par plusieurs moments de faillite, il a tenté des coups immobiliers qui ont raté, il en a tenté qui ont réussi, bon, et il a été plusieurs fois déclaré en faillite. Faut pas, mais lui, il s'en remet parce qu'il dit, j'ai raté ça, je fais autre chose, je recommence, mais j'ai une vocation de milliardaire et je vais jusqu'au bout de ma vocation. Donc cette réunion qui se tient en ce moment même à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, où paraît-il le prince héritier de la dynastie assiste au débat, très important. Ouais. Cette réunion va parler des futurs. Alors elle va parler bien entendu de la situation en Palestine, mais pas simplement. Elle va parler des nouveaux rapports entre les États-Unis et la Russie. C'est ça qui est à l'ordre du jour, puisque cette réunion est préparatoire à une réunion officielle qui aura lieu entre Trump et Poutine, normalement d'ici la fin du mois de février. Donc dans 15 jours, que tout ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, voilà, il faut que... ça veut dire, de la part des États-Unis, nous admettons le fait qu'aujourd'hui, la Russie est redevenue une grande puissance. Nous avons pensé, là ça renvoie à l'histoire de l'après 89-91, nous avions pensé, nous, l'OTAN, etc., et tous les Européens, que la Russie était défaite une bonne fois pour toutes, l'URSS s'était effondrée, il restait rien, etc., et que la Russie était devenue un petit pays, puisque même au début du conflit d'Ukraine, on disait, oh, la Russie, c'est pas plus fort que l'Espagne. Bon. Alors, il semble bien, à l'épreuve des faits, que ce ne soit pas tout à fait le cas. Et donc, effectivement, la Russie a forcé la porte. Elle s'est rétablie d'elle-même dans le camp des grandes puissances mondiales. Ça fait plus de doute pour personne. Et donc, ce que la diplomatie de Trump, puisqu'il y en a une, même si c'est une diplomatie de milliardaire, est en train de faire, c'est de dire comment on vit ensemble, comment on cohabite avec cette nouvelle grande puissance. La Chine, ils savaient déjà que c'était une grande puissance, ils avaient compris, ils s'en préoccupent, ils s'en inquiètent même, mais comment on fait? Alors, c'est ça qui se discute. C'est pas simplement le sujet de l'Ukraine ou le sujet de la Palestine. Non, non, c'est les rapports entre une nouvelle superpuissance ou quelqu'un qui est revenu au niveau des superpuissances, qui s'appelle la Fédération de Russie, et les États-Unis qui sont plutôt en train de perdre leur position de première superpuissance. Et ça engage l'avenir de la planète entière, c'est tout à fait clair, parce que il est certain que même si Monsieur Wang Yi dit qu'il y a l'égalité dans les rapports entre les États, en fait, quand les États dominants, les grandes puissances, se mettent d'accord sur un sujet et s'y tiennent, le reste de la communauté internationale s'organise en fonction de cet accord-là. Quand c'est l'inverse, quand le camp le mondial est divisé en deux morceaux, c'est ce qu'ont fait les États-Unis sous les démocrates, diviser en deux, faire des frontières, mettre des barrières, interdit des sanctions, etc., on coupe le monde en deux. C'est pas du tout ce que veulent les BRICS ni les autres, ils veulent au contraire que le monde soit ouvert. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va sortir de cette réunion? Je pense qu'il va sortir qu'on va avancer dans cette orientation-là, et que la question de l'Ukraine ne sera, on le verra demain avec les premiers commentaires qu'il y aura dans la presse, ne sera qu'un des petits côtés de la chose. Puisqu'au fond, vu par le milliardaire Trump, l'Ukraine, finalement, la guerre s'est perdue, on peut rien en faire, ça a coûté très très cher, d'abord ça a coûté très cher aux États-Unis qui ont payé, qui ont envoyé des missiles, etc., du armement, qui ont envoyé des chèques à longueur. Il faut savoir que chaque fois que Zelensky allait à New York, à Washington plutôt, il revenait avec d'énormes chèques, mais pas 100 millions de dollars, des dizaines de milliards de dollars chaque fois, voire des centaines. Bon, et donc le compte, comme on dit chez les milliardaires, il est en rouge, on compte très très gravement. Donc c'est pour ça qu'il veut se récupérer sur les minerais rares. Donc on peut considérer que côté Ukraine, ça n'y aura pas de suite, enfin ça l'intéresse pas de continuer, il veut pas continuer. Et c'est là que la France se retrouve dans le rôle le plus bête possible de cette comédie triste.
Le plus bas.
Oui, non, je dis comédie triste parce que il est quand même resté au sol mort un gros million d'Ukrainiens, que il en est parti vers tous les pays possibles, il y en a en Pologne, en France, il y en a au Monténégro, il y en a en Roumanie, il y en a partout, des Ukrainiens qui ont fui leur pays. L'Ukraine est un pays qui est détruit, où il y a plus d'enfants, il y a plus de femmes, enfin c'est une catastrophe. Donc 1 million morts au combat, côté russe c'est autour de 200-300 000. Bon, ça c'est fait, c'est perdu. Et donc le banquier Trump, il veut pas continuer sur ces bases-là, il veut essayer de récupérer ses financements antérieurs.
Et il n'a pas invité les Européens.
Et alors voilà, et c'est là qu'on en arrive à la question qui fâche. C'est la question qui fâche. Pourquoi les Européens ne sont pas venus? Parce que alors les Européens, on leur a dit, enfin il leur a dit en substance, c'est ce qu'a dit Vance aussi à Munich à la conférence, il leur a dit, mais si vous voulez vous en occuper, l'Ukraine, mais allez-y. Alors vous essayez après tout, il leur a dit, c'est en Europe, c'est pas chez moi. Hein. Il a fait l'hypocrite, comme s'il ne s'intéressait pas aux affaires européennes. Il s'intéresse, la preuve, il intervient sur les élections allemandes. Mais si vous voulez y aller, allez-y. Et ne voilà-t-il pas que notre Emmanuel National pite, comme on dit, à la pêche, ça, il mord à l'hameçon, et il dit, allez, oui, il faut qu'on y aille, on va aller battre la Russie. Alors là, tout le monde s'esclave. Alors, oui, tout le monde s'exclame, l'armée française va aller attaquer l'armée russe. Ah bon, ça va durer combien de jours? Oh, une petite semaine, ça va durer. Il ne restera plus d'armée française. Hein. L'armée française, elle est petite comparée à l'armée russe. L'armée russe, elle a beaucoup progressé depuis le conflit d'Ukraine. C'est-à-dire, ça fait 3 ans maintenant qu'elle utilise toutes les techniques modernes de combat que la France n'utilise pas, parce que la France n'est pas en guerre pour l'instant. Et donc, en fait, même en mettant un peu d'Allemagne, mais l'Allemagne est un peu réticente, même en mettant un peu d'Italie, mais alors l'Italie, c'est même pas réticente, elle a dit non. Hein. Mélanie, elle est très proche de Trump idéologiquement. Elle a dit, mais il n'est pas question que je m'embarque dans une affaire pareille. Et donc, en fait, la conférence que Macron a réunie hier à l'Élysée, c'était une conférence de dernier secours. Il n'a pas réuni tous les Européens. Alors, vous savez, à un moment donné, Macron se présentait comme le président futur de l'Europe, avec 27 États. Là, hier, ils étaient 7 à l'Élysée. Hein. Grande-Bretagne, qui n'est plus dans l'Union Européenne, Allemagne, Pologne, Italie, Espagne, je crois que c'est tout. Bon.
L'Espagne y était aussi.
Et donc, en fait, Macron doit vivre une période de désespoir profond, puisqu'il savait... Alors, parce qu'en même temps, qui dit... Parce que ça fait partie du personnage. C'est un personnage qui a toujours raison, même si les faits lui donnent tort. Il dit, on va y arriver. C'est-à-dire, on va partir, hein, l'armée, comme la fleur au fusil en 1914, et on va battre l'armée russe. Aucun observateur militaire, qu'il soit russe, chinois, même aux États-Unis, il ne pense pas que l'armée européenne fabriquée comme ça par Macron avec des bouts et des morceaux tiendrait une semaine devant l'armée russe telle qu'elle est aujourd'hui. Donc en fait, il veut nous engager dans une opération complètement folle qui va nous coûter cher, alors que je rappelle quand même qu'il nous est dit, et il y a du vrai, que le déficit de la France est très très important, qu'il faut qu'on fasse des économies, et tout d'un coup on va dire, monsieur Macron, Macron a décidé d'envoyer 25 000 hommes combattre les Russes. Alors, je signale qu'aujourd'hui, les effectifs de l'armée russe sur le sol de la Russie dans le conflit d'Ukraine sont de l'ordre de 250 000 personnes. Alors, vous pouvez toujours mettre 25 000 personnes pas entraînées au milieu, il n'en restera pas grand-chose au bout de quelques jours.
Ils désertent.
Voilà, et ils désertent. Alors, à propos de soldats français morts, on commence à avoir pas mal de témoignages, parce que l'armée future que Macron veut envoyer en Ukraine, elle est déjà en partie sur place. Alors, pas beaucoup de gens, des commandos parachutistes, des forces spéciales, la Légion étrangère et tout, mais apparemment, la liste des soldats français sous l'uniforme français morts en Ukraine depuis 2 ans, c'est plusieurs milliers, d'ores et déjà. Mais, officiellement, la France n'est pas en guerre. Ah bon ? Alors, vous savez que dans ces cas-là, il faut le rappeler parce que c'est extrêmement cruel, ces gens-là qui sont morts sur le sol ukrainien pour faire avancer les affaires des États-Unis en Ukraine, ils ont des familles souvent, ils ont des parents, ils ont des enfants, etc. Et dans ces cas-là, comme il n'a pas été dit officiellement que l'armée française était impliquée dans la guerre, on leur fait croire, ah votre mari, oui, là, alors l'armée l'a envoyé en opération, il est mort dans un accident de voiture au Mali. Ouais. Il n'est pas du tout mort au combat en Ukraine. Bon, ça, il ne faut pas le dire, c'est pas poli, parce qu'officiellement, il n'y était pas. C'est comme ça que ça se passe. Et nous voilà donc dans cette espèce d'apocalypse de l'Europe qui ne sait plus quoi faire parce qu'elle se rend bien compte qu'elle a été ridicule, à s'aligner sans arrêt sur les États-Unis, elle n'a fait que rendre service aux États-Unis, et que là maintenant que les États-Unis lui disent ce conflit en Ukraine, ça ne nous intéresse plus, l'Europe dit ah mais il faut que j'y aille, je vais faire quelque chose. Alors ça veut dire que non content d'avoir donc privilégié, je rappelle que dans le budget de M. Bayrou, les seuls ministères qui ont des crédits qui augmentent sont des crédits pour la police et pour l'armée. Tous les autres crédits baissent pour les hôpitaux, pour l'éducation, etc. Bon, donc le choix est clair. Ça veut dire que M. Macron veut continuer avec M. Bayrou dans sa poche pour faire la même chose, pour arriver à un résultat qui sera une catastrophe. Et il en va de même à peu près dans tous les autres pays européens. En Grande-Bretagne, c'est la même chose. Et là, alors, ce qui est encore plus grave, c'est qu'ils ne voient pas, il y a une espèce d'occultation, parce que ces messieurs ne voient pas, enfin, ils ne veulent pas voir que les sanctions qui ont été prises contre la Russie, qui ont en fait privé l'Europe de carburant russe, je veux dire du gaz et du pétrole, ont tellement affaibli l'économie européenne que l'économie allemande aujourd'hui est une économie en déficit, qui est en baisse. Hein. C'est-à-dire que les plus grosses usines d'Allemagne ont été obligées de fermer ou de déménager parce que le gaz est trop cher, le pétrole est trop cher. ce que n'était pas le pétrole russe à l'époque. Bon. La France est un petit peu moins touchée parce qu'elle a moins d'industrie, hein, mais ça s'arrête là. Donc la crise économique européenne, elle est là aussi très visible en Italie, elle est visible en Espagne, elle est visible dans l'Europe entière. Et elle est liée au fait que l'Europe a applaudi la guerre et elle a voulu faire la guerre à l'Ukraine, alors qu'elle en a, c'est elle qui en a le plus souffert. Beaucoup plus que les États-Unis, puisque à l'inverse même, les États-Unis se sont substitués comme fournisseurs de pétrole et de gaz à la Russie, et donc c'est eux qui prennent la place chaque fois. Les mêmes quantités de gaz vendues 4 fois plus cher quand c'est du gaz américain, gaz de schiste et tout, permettent de financer les dernières industries qui vivent encore à peu près correctement en Europe. Mais ça ne tient pas quand vous payez le carburant, enfin le combustible pour une usine ou pour un camion 4 fois plus cher que l'année d'avant, vos comptes sont évidemment en déséquilibre. C'est ça la situation de l'Europe. Et c'est au moment où elle est au plus bas économiquement que l'Europe dit, enfin que Macron dit à l'Europe, allons-y, continuons la guerre avec l'Ukraine, avec la Russie en Ukraine. Bon, alors là, on est devant une situation à la limite, j'allais dire, inquiétante, puisqu'au fond, il y a une espèce de refus du réel, une espèce de rêve en disant, dès l'instant où je dis qu'il faut y aller, qu'on est grand et que l'armée est mon vrai problème, on se préoccupe plus du reste de la population. Alors, Macron ne fait que, en fait, à contrario, montrer quelle est sa politique, c'est-à-dire c'est la politique de je me mets en avant, je montre que je suis le meilleur, et en fait, la vie quotidienne de ma population française, quand même 70 millions d'habitants, m'est relativement indifférente. Hein. Ou comme il avait dit à l'époque, vous ne trouvez pas de boulot, traverser la rue, il y en a de l'autre côté. Alors, j'attends avec un petit sourire ironique le jour où on dira à Macron, traverse la rue, il y a du boulot de l'autre côté. Ça sera exactement comme ça que ça se passe. Ben, tu voulais y aller de l'autre côté de la rue, mais qu'est-ce qui te retient? Non, on ne te retient pas. Vas-y, traverse. Là. De toute façon, à ce poste, t'as pas été très très brillant. Donc, on ferme, on arrête, hein, et on va trouver quelqu'un à ta place, mais ça va. On a vu le personnage. Donc voilà les transformations en cours qui sont importantes, puisque en fait l'Europe est ridiculisée, elle s'est affaiblie elle-même à force d'être domestiquée par les États-Unis qui se sont profondément moqués d'elle. Alors Biden l'a fait en disant aidez-moi, et en fait maintenant Trump tire la conclusion, disant, vous servez à rien, alors si vous voulez vous amuser à faire joujou avec l'armée russe, allez-y, pour moi c'est terminé. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ukraine? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Ukraine? C'est là que ça devient intéressant. Alors, l'Ukraine. Alors, les Russes ont exprimé... Vas-y.
Est-ce que Zelensky a été invité ou il s'est fait inviter lui-même?
Il a voulu rentrer, on n'a pas laissé rentrer. Ah, il a voulu aller à Munich, oui, et puis voilà. Non, ils ne le veulent plus. Ils n'ont plus besoin d'eux. Non. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Ukraine? Alors, les choses sont relativement simples à décrire, c'est-à-dire que l'opération militaire russe est un succès de plus en plus net jour après jour, ouais. C'est-à-dire que l'armée russe avance... très très vite maintenant, face à des forces désorganisées, démoralisées pour une part, effectivement les cas de désertion, de fuite, etc. Ouais. S'ajoutant au fait que ce qui reste d'adultes ukrainiens mâles encore en vie sur le territoire ukrainien, ils essayent par tous les moyens d'échapper à la conscription, parce qu'ils ont vu la façon dont ça se passe, c'est-à-dire qu'en fait l'armée russe prend beaucoup de précautions, mais quand elle voit un groupement de soldats de l'armée ukrainienne, elle les bombarde aussi longtemps qu'il faut pour qu'il n'en reste plus. Et à ce moment-là, quand il y en a plus, elle avance.
De toute façon, la population ukrainienne, elle n'a pas le mot à dire, sinon...
Mais non, mais elle aurait arrêté. En plus, alors, voilà, la population ukrainienne, c'est imprimable. Il faut savoir que Zelensky a supprimé les syndicats, a supprimé les partis politiques sauf le sien, a mis la censure partout. Donc, en fait, la population ukrainienne, elle sait qu'elle a qu'à se taire ou à obéir, ou à s'enfuir. Et chaque fois qu'ils peuvent, ils s'enfuient. Bon, ça, on le sait. Donc, pas beaucoup d'avenir. Et donc, ce qui se passe, c'est que la Russie dit, mais moi, je ne vais pas arrêter. Là, militairement, je continue. Tant qu'il n'y a pas un accord clair. Et que ça veut dire un accord clair? Alors ça a été très clairement précisé à la fois par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, et ça a été précisé aussi par Sergueï Lavrov de façon très très précise ces derniers jours. en disant les régions dans lesquelles se déroulent les combats aujourd'hui sont des régions dont la population par référendum a décidé de se rattacher à la Fédération de Russie. Ouais. Donc quand on vous parle du Donbass, de la Crimée, tout ça, ce sont des régions de l'ancienne Ukraine qui ont été décidées, qui ont décidé par référendum populaire de se rattacher à la Russie. Donc ça, on n'en discute même pas. C'est terminé. Ils sont chez nous.
Hein bon. C'est clair.
Et puis après, si on continue la guerre, puisque Zelensky veut pas l'arrêter, eh ben on s'arrêtera quand on décidera de s'arrêter. Et si les gens qui nous accueillent le long des routes quand l'armée russe arrive sont très très contents, ben on leur dira, ben vous faites un référendum pour dire que vous voulez vous rattacher à la Russie. Et donc non seulement il y aura les quatre régions qui y sont déjà, mais il risque d'y en avoir d'autres sur la base très simple, référendum populaire. C'est pas, je vous impose pas de rentrer dans la Russie. Vous êtes content que la Russie soit venue vous libérer de Zelensky. Ben maintenant, on fait un vote, et tous les habitants de Odessa, de Kharkov, de Nikolaïev, de
Mariupol. De toute façon, il a fini son mandat. C'est
oui, alors en plus, les Russes, ils redisent à juste titre en disant, vous savez que depuis le mois de mai, le mandat qu'avait M. Zelensky de président de la République, il est terminé. Oui. Et comme il n'a pas voulu faire de nouvelles élections pour rester, nous, on ne veut pas négocier avec monsieur qui n'est plus rien, qui n'existe pas. Alors, et c'est d'autant plus facile à dire maintenant qu'ils voient bien que pour les Occidentaux et les États-Unis, Zelensky compte pour rien du tout. Hein. Donc l'opération militaire va se continuer, et plus elle continue à la limite, plus le territoire de la Russie s'agrandit. Hein, par choix des populations, j'insiste bien là-dessus. Alors ça se disait plus, mais en fait il faut bien rappeler que dans le courant des 2022, il y a eu des référendums d'autodétermination dans les républiques. Ouais. Bon, et donc c'est tout à fait clair, et donc il suffit d'en faire d'autres, et puis voilà, la population a été sollicitée par un vote. Alors il faut savoir qu'il y a déjà aujourd'hui, on a des témoignages, des clandestins pro-russes sur le territoire ukrainien, on a des informations sur ce qui se passe, on sait qu'il y a de très très fortes chances pour que toute avancée de l'armée russe sur le sol ukrainien, au moins dans une bonne partie du territoire, là, au moins la partie est et peut-être plus, soit accueillie en triomphe, comme les gens qui ont arrêté le régime de Zelensky, régime de voyous, de cocaïnomanes, enfin tout. On n'a pas voulu nous le dire, mais en fait, tout le monde sait, tous les gens qui l'ont vu dans les conférences internationales, tout le monde sait que Zelensky abuse de la cocaïne.
Ouais,
Donc la population ukrainienne qui veut le savoir, elle le sait. Alors, il ne reste plus qu'entouré qu'une bande de va-t-en-guerre et surtout de pillards. C'est-à-dire que, vous savez que les dernières nouvelles, dans les fonds qui ont été reçus des États-Unis, donc qui arrivaient à Kiev, eh bien, monsieur Zelensky, mais on a perdu 100 milliards de dollars, on ne sait pas où ils sont. Ouais. Ah, tu ne sais pas où ils sont? Tiens, comme c'est bizarre. Pourtant, ça a été mis dans ton bureau. Hein. Alors, voilà. Donc, ça explique aussi la position de Trump. Elle est dire, je ne vais pas continuer à mettre des centaines de milliards de dollars dans la poche de ce voyou. Donc, j'arrête. Tant pis pour lui. Hein. Donc la guerre va continuer. Probablement, le territoire de l'Ukraine va se réduire à pas grand-chose. Et il se peut même qu'une partie des territoires les plus occidentaux, un voisinage de la Pologne et de la Hongrie, change de pays. C'est-à-dire qu'il y a dans la partie occidentale du territoire ukrainien des populations qui parlent le hongrois, qui ont été rattachées là un peu dans les découpages de l'après-deuxième guerre mondiale, qui vont dire, mais nous, si on va aller en Hongrie, on va en Hongrie, on est chez nous en Hongrie, là on n'est pas chez nous. Ça amène à se rappeler, ce qui est un fait historique tout à fait reconnu, que les frontières de l'Ukraine et le découpage de l'Ukraine tel qu'on le connaît encore officiellement sur les cartes sont une création de l'URSS. C'était un calcul qui s'est pas avéré très très judicieux, enfin l'histoire a tourné dans le mauvais sens, c'est-à-dire Staline avait pensé au moment où il avait fabriqué l'Ukraine en agglomérant donc des morceaux de l'Est, des morceaux plus russes disons classiquement aux morceaux de l'Ouest, les morceaux hongrois, polonais, lituaniens, etc., avait dit je fais un État un peu plus conséquent, un peu plus important avec des moyens industriels, des mines, des ressources naturelles et tout, ça fera un État solide. Et puis en fait le mélange ne s'est pas fait. Et beaucoup de nostalgiques, enfin, il faut savoir que l'Ukraine a toujours été traversée par des courants nostalgiques de l'extrême droite, du catholicisme, etc. Et donc, cette Ukraine artificielle est peut-être en train de vivre ses derniers jours. Bon, ça c'est la suite des événements. Enfin, alors pour la Russie c'est clair, et pour les États-Unis c'est d'autant plus clair. On les laisse. Si on essaye d'un peu de récupérer un peu d'argent dans ce qu'on a placé avant avec les mines, ça va. Alors est-ce que c'est possible? Je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas parce que dans ce qui va se décider aujourd'hui entre Lavrov et Rubio, et puis ce qui se décidera dans 15 jours peut-être entre Poutine Poutine et Trump, enfin, il va y avoir des questions d'intérêt, c'est-à-dire on va parler argent, et là on va s'apercevoir qu'il y a des intérêts états-uniens sur le territoire russe, sapristi, où il y en avait. Et qu'après tout, les Russes accepteront qu'il y ait des intérêts américains d'entreprises qui soient sur le territoire russe des investisseurs avec des entreprises communes. Et on découvre, regardez comme l'actualité se mord la queue, et on découvre qu'une partie du pétrole qui alimente l'armée israélienne pour ses avions, avec très gourmand en pétrole, les avions, arrive au port de Haïfa par un pipeline, enfin pas directement, il y a un bateau, un pipeline qui s'appelle le BTC, le Baku-Tbilissi-Sian. Donc un pipeline qui prend du pétrole en Azerbaïdjan, qui passe par la Géorgie, Tbilissi, qui arrive à Sian, donc qui est un port donc, du sud-est de la Turquie. Et de là, ça part en Israël. Donc aujourd'hui, Israël, l'armée israélienne a toujours du carburant pour mettre dans ses tanks et dans ses avions de chasse. Mais il se trouve que l'Azerbaïdjan mêle à son pétrole, à elle en a un peu, du pétrole qui a traversé la mer Caspienne par un oléoduc sous-marin qui s'appelle le CPC, dans lequel il y a les intérêts des entreprises américaines. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est grâce à des investisseurs des États-Unis installés au fond de la mer Caspienne et branchés sur le pétrole du Kazakhstan que l'armée israélienne peut continuer à fonctionner. Ça rappelle d'ailleurs d'une façon globale que Israël, sans espèce de perfusion permanente de dollars, de carburant et tout, Israël ne peut pas fonctionner. C'est l'évidence, ils le savent eux-mêmes très bien, mais ils essayent de nier le problème. Donc, ces perspectives donc, d'investissement possible d'entreprises états-uniennes sur le sol de la Russie, dès l'instant où il y aurait un partage du capital, 51%, 49%, ou tout ce qu'on peut imaginer, sont tout à fait possibles. C'est-à-dire que la Russie va dire à Trump, chef des milliardaires états-uniens, mais tes milliardaires, on veut bien qu'ils viennent travailler chez nous, à condition que soyons-nous sur notre territoire qui maîtrisions la politique qu'ils mènent. C'est-à-dire, si on leur dit, vous êtes d'accord, vous faites ici un pipeline, vous êtes ici une raffinerie, vous la faites, mais vous êtes en Russie, c'est les lois russes qui s'appliquent, vous ne faites pas n'importe quoi. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, on a une nouvelle forme de relation qui existait avant, qui avait disparu, en particulier sous Biden, c'est-à-dire sanctions, vous êtes des ennemis et tout, et ça, Lavrov l'a beaucoup rappelé en disant on sort d'une période épouvantable où on ne pouvait même plus leur parler, on avait tort tout le temps, ils trichaient tout le temps, ils ne respectaient jamais leur signature, c'était impossible de travailler avec eux. Cette période-là, je pense qu'elle est en train de s'achever et on en mesurera petit à petit toutes les conséquences. Bien, alors puisqu'on en est dans les initiatives diplomatiques, ça va faire plaisir à Habib, on va parler d'un autre coup de téléphone. Qu'est-ce que c'est que cet autre coup de téléphone? Eh bien, Vladimir Poutine a téléphoné à Al-Shaara. Alors Al-Shaara, c'est le deuxième nom du chef des djihadistes qui sont au pouvoir à Damas. Alors pourquoi il y a téléphoné? Ben parce que les contacts ont été pris par la diplomatie russe et que le contact se fait par téléphone parce que M. Erdogan, qui est le patron, le tuteur de M. Al-Shaara, c'est lui qui l'a amené au pouvoir, c'est lui qui a nourri, qui lui a fourni des armes, qui l'a encadré, qui l'a alimenté à Idlib du temps où il y faisait ses classes de terroristes. Et donc M. Erdogan a dit et s'est rendu compte sur le terrain que les affaires étaient compliquées dans la Syrie contemporaine, c'est-à-dire avec d'une part Israël, une partie de la population syrienne qui est maltraitée, qui pour l'instant essaye un peu de se défendre mais qui a des difficultés malgré tout, on en a parlé déjà et Habib pourra nous en reparler. Bon, donc là la Russie s'est bien rendu compte que ça marchait pas et M. Erdogan le tout premier a dû dire on a quand même affaire à une situation un peu compliquée et ça justifie une hypothèse que j'avais fait dès le mois de décembre en disant la Syrie devient une espèce d'entonnoir où s'effondrent toutes les ambitions des petits États. C'est une situation intenable où personne gouverne, n'importe qui peut tuer n'importe qui au coin d'une rue et tout. Ça, c'est pas possible de faire fonctionner un État normal dans cette situation avec des Turcs d'un côté, des Israéliens de l'autre, des milices de ci, des milices de ça, etc. Des milices qui s'entendent pas, Al-Qaïda d'un côté, Al-Shantari de l'autre.
Formation de défense,
voilà, un peu de tout. C'est un bazar pas possible. Ouais. Et donc, le coup de téléphone a un sens très précis. C'est dire, non, non, d'une part, je garde mes bases militaires, que les choses soient bien claires. Hein. Donc, je garde des soldats sur place. Hein. À la limite, que M. Erdogan règle ses affaires avec les Kurdes, c'est bien possible, on verra bien. Mais ça ne sera pas une partie de plaisir, parce que les Kurdes vont quand même beaucoup se défendre, ça va être difficile. Les États-Unis qui soutenaient les Turcs les ont abandonnés, c'est terminé. Hein. Bon, donc c'est un face-à-face entre Erdogan et les Kurdes. Bon, voilà. Ça, c'est tout à fait clair. Mais ça ne concerne, du point de vue du territoire de la Syrie, qu'une toute petite bande, la bande est-ouest, qui va de la Méditerranée à la frontière irakienne, pas plus.
Bon. Voilà.
Donc, ce que dit aussi le message de ce qui en a été dit par le porte-parole du Kremlin, c'est que le Poutine a dit à Al-Shara, mais attention, il faut faire attention aux minorités que vous avez sur le terrain. Ouais. Elles doivent être respectées. Et il a cité nommément les Alaouites, les chrétiens, les orthodoxes. Voilà, en disant, et il rappelle ce que on sait très bien, parce qu'on l'a dit maintes fois à cette émission, il rappelle que la Syrie avait cette particularité que, bien que gouvernée par des musulmans, c'était le pays le plus tolérant de tout le monde arabe, où toutes les religions avaient leur place et étaient respectées. Et on a même des témoignages d'une amie qui était allée en disant, oui, à l'occasion, quand le curé est malade, c'est l'imam qui vient faire la messe à sa place, etc. Ça se passait à Damas, elle l'avait vu de ses yeux. Bon. Et tout ça fait partie de... C'est l'acquis syrien. Donc, moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir, en ce sens que cet acquis syrien, qui est un vieil acquis, parce que la Syrie est un État multimillénaire où le christianisme a été fondé, mais avant il y avait l'autre. Bon, donc cet État a la capacité de respecter tout le monde, il a un grand, grand passé, et donc le faire disparaître comme ça, parce qu'il y a quatre terroristes fous furieux, coupeurs de gorge et tout, qui tout d'un coup ont été armés par d'autres, viennent faire la loi, ça peut, je pense pas que ça peut tenir.
Ça ne tiendra pas. Hein? Ça ne tiendra pas du fait que, comme tu as dit, il y a plusieurs minorités, et ces minorités ont été respectées depuis l'islam, depuis l'entrée de l'islam.
Ils existaient avant que l'islam n'existe.
Avant que l'islam arrive, donc il y a eu tout ce respect-là, et les gens, certainement, ils vont demander à ce que ça continue comme par le passé, c'est-à-dire respect de tous les Syriens, quels qu'ils soient.
Voilà. Ça, c'est un acquis très très fort, que n'ont pas les autres États de la région, qui sont beaucoup plus récents.
D'ailleurs, il y a des prêtres là actuellement qui ont parlé aujourd'hui, d'ailleurs certains ce matin, j'ai écouté là, des prêtres qui demandent, attention, n'allez pas très loin. Mmh. Du moment où nous, on vous accepte que vous soyez à la tête de l'État, mais vous allez être obligé de respecter toutes les minorités, toutes les classes.
Et ça, je pense que et le coup de fil de Poutine, c'est plus qu'un coup de fil, c'est dire voilà les règles du jeu désormais. Hein, attention, je suis là et je reste là, surtout avec ma présence militaire, politique, etc.
Il y a deux bases. Le port de Tartous et
la base aérienne. Donc là, on a une évolution tout à fait importante. Et je regarde l'heure. Terminé pour vous deux, trois minutes. Dire un mot sur la famille Trump. Hein, parce que quand on est président des États-Unis et qu'on se dit tous les immigrés, on les veut plus, on perd la mémoire.
Ah oui.
On perd la mémoire. Car le grand-père de Donald Trump était un citoyen allemand qui est venu s'installer aux États-Unis au moment de la ruée vers l'or, à la fin du 19e siècle. Hein. Et il faut savoir que le grand-père, alors je le dis, c'est facile à dire et c'est trop drôle, le grand-père de Donald, je sais plus quel était le prénom, ça n'a pas beaucoup d'importance, au moment où il y avait la ruée vers l'or, que vous avez tous vu le film de Charlie Chaplin, la ruée vers l'or et tout, était tenant financier d'un hôtel et d'un bordel. Ah bon ? Eh ben voilà, on fait ce qu'on peut. Il était déjà dans l'hôtellerie à sa façon. Hein ? C'est ça la famille Trump. Alors, quand on donne des leçons sur les immigrés qu'il faut tous jeter à la mer, on a la mémoire un peu courte.
Un peu courte.
C'est pour ça que je veux dire, bon, monsieur Trump, faites attention à ce que vous... Mais il fait pas attention parce que il cherche les effets de tribune. Et après, je lui dis, la preuve est qu'il sait discuter quand il y a des affaires sérieuses en jeu. Là, il discute, il prend le temps de rencontrer. C'est pas pour rien qu'il a envoyé M. Rubio rencontrer Sergueï Lavrov.
S'appelait Frédéric.
Frédéric, oui.
Ouais,
et il avait, oui. Et il avait transformé avec un K à la fin.
Oui. Oui,
ah oui, c'était Friedrich. Oui, c'était Friedrich Trump, Friedrich. Voilà. Bon, né en Allemagne, je ne sais pas dans quelle région. Ben, voilà ce que c'est. Et donc, ça me donne l'occasion de faire la transition avec la musique que j'avais choisie pour clôturer l'émission. Ça s'appelle alors, c'est un compositeur tchèque qui s'appelle Monsieur Anton Dvorak, qui au tout début du 20e siècle, donc c'est en 1903, écrit une symphonie qui s'appelle Monsieur Anton Dvorak, qui au tout début du 20e siècle, donc c'est en 1903, écrit une symphonie qui s'appelle la Symphonie du Nouveau Monde. Alors, Nouveau Monde, il vient, il a passé 3 ans aux États-Unis, et son espèce de bilan de cette société états-unienne, donc cette société donc néocoloniale, qui tue les Indiens, qui tue les bisons, enfin on sait tout ça, et il en fait un résumé musical que je trouve très très parlant. Dans le début de cette Symphonie du Nouveau Monde, vous allez voir le style, et on s'y croirait, on attend la chevauchée derrière, les cow-boys qui vont tirer, et les Indiens qui vont mourir avec un coup de revolver dans la figure. Voilà. On écoute Anton Dvorak, début de la Symphonie du Nouveau Monde. Voilà. Et on... Il y a quelque chose d'épique. Alors, il faut bien situer, on est en 1903. Donc, le Nouveau Monde, c'est à la fois cette conquête du pays, donc au bout du fusil ou du revolver, et puis cette nature extraordinairement riche et prolifique qui est la réalité de la nature des États-Unis. Donc, mais on a l'abus des tambours, des cymbales, etc., des grosses caisses. C'est-à-dire, on est en guerre tout le temps. Alors, on est en guerre contre les Indiens, on est en guerre maintenant contre les immigrés, qu'ils soient Mexicains ou Colombiens ou tout ce qu'on veut. Hein, on est toujours en guerre. Et c'est un bon résumé parce que les débuts en 1903, les États-Unis sont déjà en train de se rendre compte qu'ils sont en train de devenir la première puissance économique mondiale et que donc tout leur est permis. Mmh. Et c'est ça que cette musique exprime à mon sens très très intelligemment. Mmh. Et il fallait un Européen comme Dvorak, qui est tchèque, pour bien saisir. Il a d'ailleurs continué de vivre aux États-Unis. Il est rentré et il a composé énormément dans son pays, qui était la République tchèque, qui était un morceau de l'Empire austro-hongrois à l'époque, qui n'était même pas indépendant. Voilà. C'était, je pense, intéressant de passer par ce détour musical pour bien faire comprendre ce que c'était que cette période folle où M. Frédéric Trump sévissait dans les mines d'or. Merci Roselyne, merci aux auditeurs. On se retrouve mardi prochain. Tout.